planète. Ne frappez pas, c'est défendu sur ma planète. Soyez tous les bienvenus sur ma planète. Y'a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Dans les journaux, c'est ce qu'on en dit sur ma planète. Ne frappez pas, c'est défendu sur ma planète. Soyez tous les bienvenus. Chacun sa route, chacun ses romances. Chacun ses doutes, chacun ses croyances. Ici une seule certitude, on vogue sous les mêmes latitudes. Mais toi qui sais tout, toi qui parles fort, toi l'âme pure, toi qui n'as jamais tort. Si tu veux pas qu'on te fasse ta fête, viens pas traîner sur ma planète. Sur ma planète, y'a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Dans les chaumières, c'est ce qu'on en dit sur ma planète. Ne frappez pas, c'est défendu sur ma planète. Soyez tous les bienvenus sur ma planète. Y'a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Partout sur Terre, c'est ce qu'on en dit sur ma planète. Ne frappez pas, c'est défendu sur ma planète. Soyez tous les bienvenus sur ma planète. 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 Sur ma planète.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en ton aux amis, jolie môme. Qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, jolie môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, jolie môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, jolie môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, jolie môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, jolie môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, jolie môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, jolie môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, jolie môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, jolie môme. dès qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone, dès qu'une joie qu'on allait bien chez moi la retrouver, jolie môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, jolie môme.
C'est ça la médecine. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, André Bitton du CRPA est présent. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous. Alors, nous allons aborder deux thèmes lors de cette émission. Le premier, il s'agit d'un projet de loi du gouvernement visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, dont un article 4 prévoit la pénalisation de l'incitation à arrêter des traitements dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Et ce, donc, toute discipline confondue, puisque au motif que les sectes ont investi depuis de longues décennies, nombre de sectes et nombre de gourous ont investi le terrain sanitaire en tant qu'espèce de gruyère, hors cadre, sans être habilité, et finalement recrutent des gens sur la modalité des thérapies alternatives, bien, etc., etc. Alors, on sait qu'une telle pénalisation a un impact considérable en matière psychiatrique, puisqu'on va pouvoir dire aux gens que l'ensemble des écoles qui promeuvent des modalités de prise en charge autres que médicamenteuses pourront être poursuivies et leurs protagonistes condamnés, dénoncés, etc., etc. Alors, ça concerne aussi bien les psychothérapies alternatives, les psychanalyses, les différentes psychanalyses, à partir du moment où des thérapies psychanalytiques ou des pseudo-thérapies psychanalytiques ne sont pas appuyées sur des traitements, et autres, ainsi que les mouvements d'usagers, les mouvements de personnes psychiatrisées qui s'efforcent de militer contre l'emprise chimiothérapique. Donc là, le texte de cet article 4 est le suivant. Alors, il est prévu. Alors, ça passe en première lecture au Sénat en procédure accélérée, donc une seule lecture, à la mi-décembre. Donc, ce sera adopté à la fin de l'année, hein, c'est ce que ça veut dire, ou au début janvier. Alors, après l'article 223.1.1 du Code pénal, il est inséré un article 223.1.2 ainsi rédigé. Est puni d'un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales manifestement susceptibles d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique et psychique.
Oui, la provocation, ça veut dire l'incitation, en l'occurrence.
Alors, provocation, abandonner ou à s'abstenir.
Ou à s'abstenir.
Ou à s'abstenir. Non, parce que les mots sont importants. Mm-hmm. Provocation, ça veut dire on incite, on pousse et on argumente dans voilà. Et puis, on dit à la personne, mais regardez, l'allopathie, ça vous met dans quelles conditions. Voilà les effets secondaires. Donc, à abandonner ou à s'abstenir. Bon. Et le mot abstenir a un sens. Deuxième alinéa, est puni des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessure, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Bon, ça c'est par rapport au cancer et autres. Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie des faits, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Lorsque ces délits sont commis par la voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Donc, des personnes responsables de sites pourront être poursuivies en cas d'incitation à s'abstenir de prendre des traitements. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on est là, il faut reprendre un peu cette discussion d'ensemble. La médecine publique, la médecine d'État en France est hygiéniste. Il y a un hygiénisme qui prévaut en France. Et il est Depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été dans les rails, plus précisément en matière psychiatrique, à partir de la mise en place de la sectorisation, qui s'est faite progressivement. Hein. Les premières étapes prototypes, c'est dans les années 50, puis la circulaire 60, puis un peu quelques secteurs tests, et après, c'est l'ouverture dans les années 70. Il a toujours été question, depuis, de légaliser, vu l'ouverture des institutions, de légaliser la contrainte aux soins en psychiatrie. Cette contrainte aux soins en psychiatrie, à l'heure actuelle, est légalisée depuis la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Mais là, on passe à une étape, à une autre étape, qui est pénaliser, rentrer dans le code pénal, le fait de pousser des gens à adopter d'autres modalités thérapeutiques que celles basées sur les médicaments.
Oui.
Et là, quand on reprend le fil de cette discussion, on s'aperçoit qu'en fait, on passe d'une légalisation de la contrainte aux soins à une pénalisation de l'arrêt des traitements. Et là, on reprend les discussions, notamment sur la dernière loi sur l'irresponsabilité pénale à propos de celle de 2022 menée par Éric Dupond-Moretti, qui avait été. C'est un texte qui a été pris sur l'activisme de la communauté juive, des instances de la communauté juive et de l'État hébreu, hein, bien notamment, avec comme porte-parole le député des Français installés en Israël, M. Meir Habib, très proche de Benjamin Netanyahou et ancien membre du service d'aide du Likoud. Donc bien les gros bras là, hein, de la communauté juive. Et donc Meir Habib, siégeant à l'Assemblée nationale, et a été réélu, hein, finalement. Donc cette loi, à propos de cette loi, donc il y a une réforme de l'irresponsabilité pénale pour les médico-légaux, pour les personnes médico-légales comme étant des crimes sous emprise. Et il y a eu notamment un article qui a rajouté que il y a eu deux modifications importantes. La question, le fait de se doper à des stupéfiants pour pouvoir passer aux actes. Premièrement, et ensuite, et ce qui est très important, le fait que la personne dont il est envisagé qu'elle soit déclarée irresponsable soit envoyée en audience à huis clos devant la cour d'assises. Alors qu'auparavant, avec la réforme Dati de 2008, si les parties le demandaient, la personne dont il est envisagé qu'elle soit déclarée irresponsable pouvait comparaître en audience à huis clos en chambre de l'accusation, c'est-à-dire en cour d'appel, chambre de l'accusation. Tandis que là, c'est dans une audience plénière huis clos en cour d'assises. C'est-à-dire que l'on va vers une américanisation, en quelque sorte. Hein. Bon, alors là, on franchit. Alors, durant cette loi, parmi les parlementaires qui avaient débattu sur cette loi, il avait été mis en avant que ce serait vraiment une très bonne chose de pénaliser l'arrêt des traitements. Ouais. C'est-à-dire que des patients médico-légaux, par exemple, mis dehors en programme de soins, qui oseraient arrêter leur traitement, pourraient être poursuivis de ce fait. Alors là, c'est pas tellement ça qui est pénalisé. Ce qui est pénalisé, c'est l'incitation à l'arrêt des traitements. Donc, alors, ce qu'on voit en la matière, puisque là, en fait, c'est la pénalisation de l'arrêt des traitements dont l'efficacité est établie médicalement et scientifiquement, toutes disciplines confondues. Cancer, sida et autres et autres. Et on est dans l'après-confinement. Donc on voit, durant le confinement, durant l'épidémie de Covid-19, on a tous été astreints aux soins. On a tous été enfermés. Hein ? Bien. Alors sur le vaccin, on voit les polémiques anti-vax, etc. Mais pour revenir à la question psychiatrique, on est là devant la perspective qu'une chasse aux sorcières puisse être exercée par les détenteurs des pouvoirs institutionnels en la matière, contre toute personne, tout groupe, toute opinion, hein, toute obédience, toute école médico-psychiatrique qui promeut autre chose que les médicaments.
Et, oui. Et dans le texte, il y a une expression qui est répétée deux fois, c'est « en l'état des connaissances médicales
oui. ».
C'est-à-dire que, en fait, la loi estime que les connaissances médicales sont à un niveau assez satisfaisant pour justifier, pour renforcer le pouvoir médical au service, en quelque sorte, du pouvoir du pénal. En fait,
c'est pas si simple, Denis.
Oui, oui.
Cette expression, c'est une clause de style habituelle en la matière.
Oui.
C'est une clause de style dans les contentieux médicaux, en l'état des connaissances
oui.
de la médecine. Hein, ça veut dire que celle-ci étant susceptible d'évoluer, en l'état de la situation à un moment donné, les connaissances médicales ont établi que, donc...
Voilà. Disons que les connaissances médicales, à ce moment-là, représentent un pouvoir.
C'est ça, ben, un peu. Oui. Et ces connaissances, alors maintenant, avec les recommandations de la HAS, qui plus est, et alors que les recommandations de bonne pratique de la HAS ont acquis et sont considérées comme étant un droit mou. Ce qu'on appelle le droit mou par rapport au droit dur. Donc, dont on se demande, et de plus en plus, et énormément de dispositions sur le terrain santé passent par le biais du droit mou. À savoir, le droit mou, si tu veux, c'est un droit non impératif, non immédiatement exécutoire. Par exemple, un décret est impératif. Une loi, bon, ben, une loi, s'il y a des textes d'application de type décret, circulaire, etc., paf, c'est d'application. Un droit mou, alors on se demande, on est entre deux eaux. Et puis un de ces quatre, dans un établissement, on vous oppose le droit mou, et à ce moment-là, vous sautez, quoi. Parce que vous avez osé ne pas suivre ce droit mou, les protocoles, etc. Donc c'est assez ennuyeux, puisque, en fait, en matière de médicaments, en matière de prise en charge, ce droit mou des préconisations, recommandations de l'HAS s'impose. Bien, bien. Faut voir, enfin, c'est surtout dans les établissements hospitaliers, des hospitaliers qui ne suivent pas un protocole HAS, machin truc, avec les consignes de la direction, mais leur carrière est un peu plus que ça, un peu plus vite que ça en péril. Alors, ce qui est à noter, c'est surtout ça, et là, moi je dis que c'est amusant comme ça, parce que ça fait longtemps que je milite sur le terrain, en réalité, c'est pas drôle du tout, c'est que le gouvernement... Et puis la haute administration, hein, les bureaux qui sont derrière, les bureaux administratifs, l'administration centrale, comme par hasard, passent par un vecteur pour lequel il y a un consensus politique, on va lutter contre les sectes, tout le monde est d'accord, quoi, si vous voulez, pour faire passer des dispositions liberticides qui s'appliquent à tous. Il y a tous les champs. Et là-dessus, ça m'a fait penser, et des questions juridiques sur la prescription se sont posées, ont été dûment débattues, hein, dans les milieux juridiques, notamment la loi de 2016 sur les violences sexistes et sexuelles et sur les délits de viol et inceste, enfin viol plus précisément. Or, précisément, les lobbies féministes, qui ne se rendent peut-être pas compte, hein, parce qu'il y a une part d'irresponsabilité là-dedans, ont pu obtenir du gouvernement un allongement des délais de prescription. Par exemple, le délai de prescription pénale est passé, de par la loi de 2016, de 3 ans, le délai correctionnel, de 3 ans à 6 ans. Bien. Or, ce qu'on n'a pas vu, le délai criminel est passé de 10 ans à 20 ans, hein, aussi. Voilà. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que nous sommes dans une société de l'immédiateté. Oui. Et que ce délai correctionnel pénal de 3 ans à 6 ans, c'est pour toute forme de délit. C'est-à-dire que ça va des voleurs de pommes, hein, dont j'ai fait partie quand j'étais jeune, des voleurs de pommes qui, sous Victor Hugo, étaient passibles du bagne, des voleurs de pommes à ceux qui exercent des violences sexuelles ou je ne sais pas quoi, enfin, etc., etc., ou du pétage de gueule, etc. Donc on se trouve là, par le biais... d'une loi que tu fais d'accord, oui, c'est sûr, faut faire quelque chose sur les violences sexuelles, ça peut pas durer, oui, on est d'accord, et paf, le gouvernement prend une disposition liberticide s'appliquant à tous.
Ouais.
À tous, littéralement à tous. Voilà. Et là, ben, c'est un peu le même principe. Donc, et puis, mieux même, on est maintenant, et depuis cette époque, dans des polémiques qui sont juridiquement absurdes, que des lobbies réclament l'imprescriptibilité pour le crime d'inceste, etc. Alors que, déjà, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement que l'imprescriptibilité, tu vois ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Bon, donc on voit là l'utilisation par le gouvernement à des fins répressives générales de causes très, très utiles, très généreuses. Et le gouvernement et certains lobbies en profitent pour durcir la répression, tous axes et sans nuance. Voilà. Alors là, ben, voilà, c'est le problème que ça pose.
Ça va faire les... Enfin, ça va faire de bonnes affaires pour les labos, ça, si on... Si...
Alors, pour les labos, et puis oui, et en fait, pour l'hygiénisme,
oui.
Tout court. Mm-hmm. Pour l'hygiénisme tout court. Donc, est-ce qu'on va en venir ? Alors, on a quand même cette chance que parmi, dans le corps médical, parmi les académiques, parmi les professionnels du soin, beaucoup de gens ne sont pas d'accord, hein. Beaucoup de gens ne sont d'accord. Pas d'accord. Parce que les ravages de l'allopathie, on sait ce que c'est. Hein. Alors, il y a ce mouvement-là. Et d'autre part, on peut noter, alors en matière de santé mentale, un autre mouvement en sens inverse qui je ne sais pas si ça se conjugue, mais en tout cas, ça va de pair. La désinstitutionnalisation, ça fait réfléchir tout le monde. On voit bien qu'il faut déchroniciser des patients psychiatrisés lourds qui pèsent là avec des vies inutiles et qui pèsent d'ailleurs sur la productivité du pays. Bien. Et donc en parallèle, des programmes institutionnels sont en place pour déchroniciser des gens en matière psychiatrique. L'HAS s'y est mis, le CCOMS en effet, les logiques du rétablissement. Des cours sont donnés, notamment sous l'égide de Fondamental, pour démédicamenter certaines personnes.
D'accord.
Mais c'est à peu près comme le recrutement des médiateurs de santé pair et des pair aidants professionnels. C'est ce que Natacha Guillet a noté pour sa démission, à savoir qu'elle a été approuvée par des gens qui la connaissent et qui ont vraiment son texte vraiment très bien. Et d'autre part, sur la page Facebook de Pair à Pair, sur la pair aidance professionnelle ou bénévole, où il y a 900 inscrits, là, silence radio. Parce que des carrières sont en jeu. Donc c'est les bons malades, les opposants, voilà. Donc c'est pas simple, et en tout cas, on est devant la mise en œuvre et la mise en application d'un programme continu du ministère de la Santé et des lobbies qui règnent au ministère de la Santé, et qui font les décisions d'ailleurs, qu'il y ait une accentuation continue de cet hygiénisme, de la contrainte aux soins, d'imposer, de faire le bien des personnes contre leur gré, d'ailleurs, un bien, et à coup de médicaments, alors qu'on sait que la fixation des prix des médicaments, l'imposition de tels nouveaux traitements ou prétendus nouveaux traitements, c'est en fait une affaire de pognon et que les laboratoires n'ont rien à fiche de la santé des gens. Ça, on le sait. Oui.
Voilà pour ce volet donc du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
Oui. Alors, le deuxième axe de mon intervention, c'est il y a eu dans la dernière loi de programmation judiciaire, qui est assez complexe, qui vise à accentuer le ministre de la Justice, le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, a quand même obtenu une hausse importante en volume du budget du ministère de la Justice, qui est pratiquement un des ministères régaliens, en principe, un ministère très important, avec un budget ridicule. Parce que c'est pas le coup que la justice fonctionne bien en France. Mais c'est massivement en direction du pénal et pour le reste, c'est l'informatisation des procédures. Mais il y a donc dans cette loi, ce qui avait été vu dès le mois d'octobre, notamment une dépêche de Spimedia, un article 44 qui prévoit de transférer les compétences civiles des juges des libertés de la détention au profit d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire en ce qui concerne la rétention administrative des étrangers dont il est envisagé l'expulsion et l'hospitalisation sans consentement. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec la judiciarisation des internements psychiatriques, c'était un juge bien précis qui avait été commis, celui qui, jusqu'à présent, depuis 2000, était en charge des saisines facultatives de levée, de demande de levée d'hospitalisation sans consentement, ou de programme de soins d'ailleurs, ou de sortie d'essai, je veux dire, le juge des libertés de la détention. Le juge des libertés de la détention avait été, en quelque sorte, créé en 2000 par une ordonnance de rationalisation et était en 2000, c'était suite à l'affaire Vasseur d'ailleurs il avait été mis en œuvre pour garantir les libertés fondamentales des personnes détenues.
Oui.
À la base. Bien. Et puis petit à petit, sa casquette avait été étendue, mais pour l'essentiel, le juge des libertés de détention est un juge répressif. C'est un juge auquel on est envoyé lorsqu'il doit y avoir un maintien en détention, au sortir d'une garde à vue, etc. Bien. Et par ailleurs, dans le contentieux des migrants sans titre des migrants en cours d'expulsion, en rétention en CRA, Avant la loi de 2011, de juin 2011, il y avait un double contentieux pour les migrants retenus en centre de rétention administratif, le contentieux TA, le référé TA, tribunal administratif, à 2 jours, et le contrôle JLD à 3 jours. Et la loi de 2011 avait mis le contrôle JLD suivant le contrôle tribunal administratif en référé à 5 jours au lieu de 3 jours.
Dans les CRA.
Voilà, dans les CRA. Oui. Voilà. Et donc, ce recul de 2 jours avait permis de mettre des effectifs supplémentaires pour la judiciarisation des hospitalisations sans consentement. Et sachant que le contentieux de la juridiction du maintien des hospitalisations sans consentement et du contrôle des maintiens isolement contention est un contentieux très fourni, c'est 115 000 décisions par an.
Oui.
C'est énorme. C'est-à-dire que c'est un des contentieux les plus fournis du pays. C'est le plus fourni de la matière civile. Voilà, c'est pas difficile. Il y a une montée en puissance. D'abord, la première année, les contrôles judiciaires obligatoires, les contrôles judiciaires obligatoires des hospitalisations sans consentement 2011-2012, c'était 50 000 contrôles, 70 000 contrôles, 80 000 contrôles. Mais maintenant, avec le contrôle des isolements contention, c'est 115 000 décisions en. Donc, c'est un volume important et avec un manque d'effectifs. Et il avait été question, dès les débats parlementaires, d'affecter ce contentieux au juge des tutelles.
Ah oui.
Au juge des tutelles. Et le juge des tutelles est un juge du siège. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, juge du siège ? D'abord, éclaircissons. Dans la magistrature judiciaire, vous avez deux fonctions. Deux fonctions, plus précisément au pénal, mais aussi au civil. Vous avez les juges debout, c'est le parquet, les procureurs.
D'accord.
C'est la juridiction debout qui, au nom de la société et de l'État, porte l'accusation ou porte les réquisitions ou les conclusions au nom de la société. Le juge debout, celui qui conclut debout. Et les juges du siège sont ceux qui sont assis, qui font la décision et dont pour ces juges, leur indépendance est garantie. Les juges debout, le parquet, est sous la dépendance de l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, donc du gouvernement. Et peut recevoir des instructions.
Bien. D'accord.
Il exécute le juge debout, et sous la dépendance hiérarchique, enfin il est statutairement indépendant, mais il est sous la dépendance hiérarchique de l'exécutif. Bien. Les juges assis, eux, ont leur indépendance constitutionnellement garantie. Sauf pour leur carrière. Hein. Pour leur carrière et leur promotion, etc., il vaut mieux qu'ils fassent comme on
dit. Et le JLD dans ce...
Le JLD est un juge du siège.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que c'est un juge. Alors, les JLD, justement, l'intérêt, c'est qu'ils étaient choisis parmi les plus gradés des juridictions, les plus anciens. C'était soit des présidents de juridiction, soit des vice-présidents. Mais généralement, c'est des juges qui ont de l'ancienneté, qui ont de la maîtrise. Bon. Alors là, qu'est-ce qui va se passer si on assiste... Il y a deux perspectives qui sont en place sur ce transfert de compétences à un juge du siège, c'est-à-dire un juge qui n'est pas le parquet, qui n'est pas le procureur ou le substitut, qui est un juge statutairement indépendant. Bien. Alors on a deux perspectives. C'est que, premièrement, on pourrait aller vers un juge spécialisé en matière de santé mentale.
Oui.
Bon. Et deuxièmement, cette spécialisation pourrait se faire du côté des juges des tutelles, qui sont devenus, ils ont changé de nom en 2000, ça s'appelle des juges de la protection.
Oui.
Bon, puisque maintenant,
protection des majeurs. Oui.
Voilà. Or, les juges, si l'on spécialise le contentieux du maintien d'hospitalisation sans consentement des mesures d'isolement contention vers un juge spécialisé, juge de la protection, qui assure la double casquette des tutelles, curatelle des mesures de protection et de l'hospitalisation sans consentement, l'on accentue le fait que ce contrôle est un contrôle de protection et pas un contrôle de la liberté.
Oui, d'accord.
Oui, ça pose problème. Mmh. Et nous, on était contre dès le début, parce qu'on disait que, c'était les vieilles thèses de Philippe Bernardet, le leader historique du GIEC, qui avait parfaitement raison, Si l'on va en France avec l'hygiénisme français, le paternalisme français, si l'on confie ce contentieux à des juges de la protection, à des juges des tutelles, alors c'en est vraiment plié pour les libertés individuelles.
Oui, alors donc je récapitule un peu, c'est-à-dire qu'au départ, historique, le JLD, ça ne concernait que le domaine, les prisons, donc le domaine pénal. Et il s'était étendu à un domaine administratif, les CRA, un peu plus tard. Et puis enfin, le code de la santé publique, oui. Avec les hospitalisations sans consentement.
Oui, c'est ça. Alors, oui. Sachant que dès 2000, dès l'instauration des JLD, les saisines facultatives afin de mainlever d'hospitalisation sans consentement ou de sortie d'essai, était de la compétence du JLD. Mais c'est un contentieux parfaitement marginal.
Oui.
Tout à fait marginal.
Et là, donc, avec cette loi, il va être remplacé, le JLD, par un magistrat du siège, comme tu disais. Et
oui.
Donc,
indéterminé.
Indéterminé, d'accord.
En l'état indéterminé, c'est-à-dire ce sera selon les disponibilités. Or, selon les disponibilités, qu'est-ce que cela veut dire aussi? Ça veut dire que les JLD à travers le pays ont acquis, soit qu'ils fassent bien leur boulot, soit pas, enfin ça dépend des avocats aussi, ont acquis une compétence, une expérience. Oui. Parce que ça fait longtemps maintenant que la judiciarisation est en place depuis août 2011. Ça fait longtemps. Tandis que là, selon les affectations, selon que tel magistrat va être disponible ou pas, on va lui coller le...
Oui.
Donc ça veut dire un effort de formation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des juridictions où ça va pédaler dans la semoule pendant pas mal de temps, quoi. Et où ça risque, c'est les justiciables qui vont en pâtir.
Et c'est ce qui va se passer dans les CRA et dans les hôpitaux.
Oui, alors parce qu'en effet, ça réforme le CRA. Et pour le contrôle. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour les migrants en cours d'expulsion, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a nettement moins de comparutions JLD qu'avant, puisque le contrôle JLD, c'était un contrôle à 5 jours. Donc, comme le référé TA, le contrôle TA est à 2-3 jours, je crois, et que comme généralement ça se statue là, il n'y a pas tellement de procédures devant les JLD, il n'y en a pas tellement.
D'accord.
D'accord. Tandis que pour le contrôle obligatoire des soins sans consentement, on avance. Puisque les derniers décomptes, c'est 80 000 mesures contrôlées. Et puis, les derniers décomptes de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du ministère de la Justice n'étaient pas disponibles pour le contrôle de l'isolement contention. Donc, alors, ce qu'il y a, donc, un, ça va pédaler dans la semoule. De deux, au fur et à mesure que ça pédalera dans la semoule, il va y avoir une spécialisation. Et de trois, l'aspect protection. Oui, mais votre hospitalisation, c'était pour vous protéger, c'était pour votre bien.
Oui. Bon. Et donc, là, ce que tu préconiserais, c'est qu'il y ait un magistrat spécialisé sur la question de l'internement.
Alors, de toutes les façons, on va vers ça. Il va y avoir une spécialisation. D'ores et déjà, depuis 2011, il y a d'ores et déjà des magistrats qui se sont spécialisés. Après, il en dépend des contre-pouvoirs. Donc, l'intérêt à l'heure actuelle, depuis que la représentation par avocat est devenue obligatoire au 1er septembre 2014, dans ces contentieux, avant elle n'était pas obligatoire, c'est que tout de même, beaucoup plus d'avocats qu'avant se sont impliqués et ils vont en termes juridiques. Simplement, l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas favorable. Elle est la Cour de cassation a vissé les boulons. Et l'on a une tendance à la baisse authentique du nombre, enfin du volume de mains levées accordées par rapport au nombre total de mesures contrôlées. On est passé d'un maximum de 9% de mains levées accordées sur le volume total des hospitalisations sans consentement statué, oui. À 8-7%.
Oui.
Bon, ça c'est le verrouillage par la Cour de cassation. Bien, donc il en dépend, puisque maintenant c'est un terrain complètement professionnalisé, il en dépend des barreaux et de leur investissement. Et il en dépend du travail également important, d'ailleurs fait par les magistrats du syndicat de la magistrature, dont les détenteurs de pouvoir institutionnel disent très bien qu'ils sont très bien, ces magistrats, ces juges du syndicat de la magistrature, ils feraient mieux de s'occuper de la défense des intérêts de leurs syndiqués et de ne pas faire de politique.
Ok.
Alors, bon, oui, donc, oui, mais quand même, si, ce que je pense, c'est que on a là encore, et ça confirme ce que disait, par exemple, le docteur Jean-Michel Kahn à une de nos confs débats, notamment quand il y avait les époux Dupuis, pour l'affaire Romain Dupuis, c'est que d'une brèche qu'on a emportée, de quelque chose qui a offert un véritable espoir, la judiciarisation, on a bien un retour de balai, un retour de manche, un boomerang, où petit à petit, et même dès le début, les acteurs institutionnels se sont débrouillés pour en faire un outil répressif de plus. Alors certes, il n'en reste pas moins, hein, la judiciarisation c'est très important, puisque pratiquement pour contester un système pareil, au moins les professions juridiques sont dans la danse, au moins. Mais ce que je veux dire, il n'en reste pas moins que les acteurs en face ont transformé ça en mascarade. Mmh. Ben, c'est lamentable.
Voilà. Eh bien, on va passer une petite musique et on se retrouve juste après. On est toujours à l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire, 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Voilà, c'est un extrait de Narcophilia de NLC. Voilà. Et c'est toujours L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
Alors là, il y a une dépêche d'Ospimédia du 27 novembre qui présente un certain intérêt. Le titre de cette dépêche est le suivant. La FHP, Fédération Hospitalière Privée, PSI, estime que 3,3 millions de journées ne seront pas financées pour 2022-2027. C'était par rapport à la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2024. Plus de 600 milliards d'euros adoptés à coup de 49,3 sans que ça fasse de bruit, puisque pendant ce temps-là, il y avait le conflit israélo-gaza, etc. Donc, circuler, braquer votre regard sur l'étranger. Pendant ce temps-là, on adapte nos lois de financement comme on veut. Alors, il faut savoir que depuis la désinstitutionnalisation, et plus précisément l'accélération de cette désinstitutionnalisation avec les lois hospitalières prises depuis une quinzaine d'années, les groupes privés se sont positionnés et régulièrement, là où des services de psychiatrie sont fermés, comme par hasard, dans le secteur, des groupes privés établissent des cliniques de gérontopsychiatrie. Et au plan boursier, c'est vraiment d'excellents rapports. Alors bon, c'est connexe du scandale des EHPAD, hein, c'est à peu près ça. Alors ça dépend des cliniques. Alors ce qu'on peut voir, c'est que dans ces cliniques privées, nombre sont conventionnés. Bon, mais dans ces cliniques conventionnées, c'est des prestations de base qui sont conventionnées. Dès qu'on veut quelque chose de plus, c'est tarifé. Bien. Et l'on observe dans ces cliniques que les médecins psychiatres qui y travaillent et se débrouillent pour expédier leur clientèle à raison de 2 minutes 30 par patient et ramassent le plein tarif à chaque consultation. Et ça, c'est ultra fréquent. Donc, c'est des pompes à fric. Alors, c'est ça qu'il faut voir. Donc, la détresse humaine, il y en a à qui ça rapporte. Hein. Ça, c'est toutes les façons. Alors, maintenant, bon, il y a des cliniques où ils s'efforcent de faire leur travail correctement, mais c'est toujours la même chose. Ce que l'on voit, c'est que c'est le privé lucratif qui est rentré sur ce terrain. C'est le privé lucratif.
La tarification. Alors, à l'acte.
Oui, évidemment. Et puis, si on veut quoi que ce soit, c'est tant la journée. Alors, jusqu'au jour, il va y avoir un de ces quatre dans le pays que pour les hospitalisations sans consentement, avec le libre choix du secteur et de l'établissement, des groupes privés auront établi des cliniques luxe dans lesquelles on accueille des gens en soins sans consentement. Et donc, les gens friqués, internés et mis sous procédure de soins sans consentement pourront passer agréablement leur séjour là-dedans, tandis que les autres pourriront dans des mouroirs. Donc, je lis cette dépêche d'Ospimédia parce qu'elle est assez intéressante et qu'elle cite des chiffres. L'inadaptation du nouveau modèle de financement de la psychiatrie va conduire à un sous-financement de l'activité des cliniques, alerte la FHP-PSI dans un rapport. Cela pourrait aboutir à un écart de financement de 45 millions d'euros d'ici 2027. Alors là, c'est toujours la même chose. Tout le monde se plaint que la puissance publique et les partenaires qui gèrent les caisses de sécu de la Sécurité sociale ne mettent pas assez dans la santé mentale, puisque c'est un secteur où, toutes les façons, ça fait maintenant plusieurs décennies, il est dit aux gens, débrouillez-vous dehors, débrouillez-vous à moindre coût sur des réseaux de solidarité, votre famille, etc. On envoie, c'est comme ça que le développement de la paix aidante, c'est ça. Le développement des groupes d'entraide mutuelle, c'est ça. Hein, voilà. On distribue des subventions au compte-gouttes et puis on dit maintenant débrouillez-vous, vous gérez les gens. Donc, alors, dans les conditions actuelles de réforme de la financement de la psychiatrie, les cliniques privées devraient absorber 3,3 millions de journées non financées sur 2022-2027. Dans un rapport diffusé ce 27 novembre, à télécharger ci-dessous, le syndicat spécialisé de la FHP, Fédération Hospitalière Privée, estime que cet écart de financement correspond à une enveloppe supplémentaire de 54 millions d'euros en 2023. C'est-à-dire un sous-financement pour ces établissements, un manque à gagner au regard de l'activité effectivement réalisée. Le syndicat estime que cet écart atteint 45 millions d'euros cumulés sur 2023-27, sur donc 4 ans, hors inflation et en sus du tendanciel. Alerte sur un fossé sanitaire. Ce rapport intitulé « Santé mentale des Français, le grand fossé sanitaire et sociétal » présente en premier lieu un sondage analysant la perception des Français sur l'évolution de la santé mentale et sur sa prise en charge. Une note de la commission stratégie et prospective de la FHP-PSI est ensuite présentée pour alerter sur les conséquences de la réforme actuelle du financement de la discipline sur la prise en charge des patients. C'est un financement par comparaison. compartiments. Hein. Enfin, un rapport économique prospectif réalisé, etc., etc. Alors, une inquiétude croissante de la population, ça c'est intéressant. Selon le sondage Harris Interactive publié dans ce rapport, la santé mentale apparaît à ce jour comme un enjeu majeur aux yeux des Français et encore plus à l'avenir. Il montre par exemple que 47% des sondés estiment que un ou plusieurs de leurs proches ont besoin de consulter un professionnel de santé mentale. Pour environ 20% des répondants, leurs proches devraient consulter pour une pathologie sévère, dépression, bipolarité. 84% des sondés estiment que la part des personnes souffrant d'une pathologie sévère va augmenter dans les prochaines années. L'AFHP-PSY souligne que 56% des répondants n'expriment globalement aucune préférence pour le statut des établissements, publics ou privés, s'ils devaient conseiller un proche pour une prise en charge psychiatrique. Alors là, on rentre dans une discussion qui présente un certain intérêt. Le document revient sur le poids économique de la santé psychique. Il cite notamment une publication de la Fondation Fondamentale qui chiffre le coût annuel de la santé mentale à environ 170 milliards d'euros par an et distingue trois catégories de charges, 10 milliards d'euros pour l'accompagnement psychique, 38 milliards d'euros pour la prise en charge des maladies psychiatriques et 126 milliards d'euros de coûts indirects. Bon, il y a des différences de chiffrage selon les sources, mais en gros, pour la Sécurité sociale et caisses maladies, ce n'est pas tout à fait les mêmes comptes, mais ça se recoupe. Hein. Toutes les fêtes sont, pour les caisses de sécu, ils comptent plus exactement 27 milliards d'euros pour la santé mentale, mais les coûts indirects sont estimés à 100-110 milliards d'euros. Hein.
Ah oui.
Ah ben, l'improductivité. Hein. L'improductivité. Ils ont fini par réaliser quand même au niveau des argentiers, au niveau de l'organisation, que chroniciser des gens indûment, incapacité à coup de traitement, notamment, hein, des gens sur toute leur vie, dès le moment où ils démarrent un circuit psychiatrique, c'est accroître considérablement l'improductivité et ça pèse sur les finances publiques.
Oui, je vois.
Bon. Moi, qu'est-ce que je me suis efforcé de faire en tant que personne, à partir du moment où j'avais la hache, de restaurer ma santé pour quand même avoir une utilité et ne pas peser en improductif sur la société, ce qui est quand même la moindre des choses, tu vois. Mais là, l'on voit que du circuit ancien dont j'ai relevé, ça n'était pas favorisé, c'était combattu. Bon, maintenant, il y a déjà le programme rétablissement, hein, c'est déjà mieux. Mais il faut voir sous quelles conditions. Donc, je relis. Trois catégories de charges selon Fondamental. 10 milliards d'euros pour l'accompagnement du handicap psychique. 38 milliards d'euros pour la prise en charge des maladies psychiatriques. 126 milliards d'euros de coûts indirects. Le rapport brosse aussi un panorama de l'offre actuelle et de la répartition de l'activité selon les secteurs privés publics. Il rappelle ainsi que l'AFHP regroupe près de 200 cliniques. Il y a 400 établissements psychiatriques en France sur le secteur public ou assimilé public. Donc 200 cliniques qui ont accueilli en 2002 quelques 120 000 patients. Par an, c'est un peu moins de 400 000 patients qui sont accueillis en établissement, en psychiatrie. Hein. Bon. Donc on arrive à pas loin de 30%. Hein. Donc toute forme de prise en charge confondue, pour 6 millions de journées d'hospitalisation, 29% de l'activité de psychiatrie hors ambulatoire. Ils ont pratiquement 30% du marché. Et ils sont montés en puissance. La capacité des établissements représentés par le syndicat atteint 17 000 lits et places.
Oui.
Le nombre total de lits de psychiatrie en France, c'est de 55 000 lits, à peu près. Alors, c'est 17% des capacités d'accueil en France. Lits et places, c'est pas la même chose. Hein. On dit des places d'hôpital de jour et des lits d'hospitalisation temps plein. Sur les prochaines années, le rapport entend ensuite montrer l'existence d'un enjeu de réponse aux besoins croissants de prise en charge face aux limites de l'offre et du financement. Qui va financer ? Alors, hausse prévue de la part du privé dans l'activité. Et là, on voit qu'en fait, d'après d'autres chiffres qui sont sortis au fur et à mesure et qu'Hospimedia publie, en fait, les chiffres d'affaires des groupes privés qui ont investi en gérontopsychiatrie ont littéralement explosé. Donc ça veut dire que les dividendes qu'ils distribuent, parce qu'ils sont cotés en bourse, les dividendes qu'ils distribuent, ça marche. Donc les besoins en psychiatrie, remarquez, peut-être que les patients vont finir par en avoir besoin, hein, que ça marche, mais ça dépend dans quel sens. Ça ne marchera, c'est la même chose que pour les autres établissements de placement, que s'il y a des contre-pouvoirs.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est la question en France, que en France, on n'aime pas les contre-pouvoirs. Voilà, c'est... Donc les besoins en psychiatrie excèdent largement l'offre, commente le syndicat, et ceux-ci vont continuer à progresser, ces besoins, sous l'effet de la démographie, d'un meilleur diagnostic et d'une prise de conscience plus large de l'importance de la santé mentale, particulièrement pour les pathologies émergentes. C'est là où l'on voit l'impact du trafic des stupéfiants en France. C'est tout de même, la France est un pays qui est énorme, énorme consommateur de cannabis, bien... Et
de cocaïne.
Et tout, oui, avec les ravages liés. Donc, la question des pathologies émergentes. Cette dernière expression recouvre notamment, selon la FHP psy, les troubles anxieux, les troubles de l'alimentation, encore certains troubles de l'humeur, comme la dépression. Par ailleurs, les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, médico-sociale, maintien à domicile, ambulatoire, et les évolutions des pratiques et des capacités, d'autre part, vont contribuer à réduire le volume des journées d'hospitalisation en psychiatrie, poursuit le rapport. Oui, on peut hospitaliser à domicile, et ça a été vu et systématisé durant le confinement. Merde, j'ai perdu la page, excusez-moi. Excusez-moi, mais j'ai perdu la page.
Oui,
bien. Pause musicale.
Ouais, voilà, encore une petite plage musicale.
Ah voilà, non, voilà, je l'ai. C'est bon ? j'ai retrouvé la page.
Ok.
J'ai retrouvé la page, alors allons-y. Voilà. Ainsi, à l'horizon 2027, il est anticipé une hausse de l'activité hospitalière pour les pathologies émergentes et une poursuite de la décrue des pathologies au cœur de l'activité historique, telles que la schizophrénie. En parallèle, les écarts de dynamique entre les secteurs privé et public vont se maintenir, amenant à une hausse progressive de la place du privé dans l'offre de soins hospitaliers en psychiatrie. Donc le privé prend en charge. Et là, on voit le parallèle. Enfin, bon, c'est la même chose qui s'est dessinée en Italie avec la loi 180. On dit qu'en Italie, bon, ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques. Les groupes privés ont mis sur pied des cliniques pour pallier cette fermeture.
Ah oui.
Et c'est selon les régions. Donc c'est pas si simple. Parce qu'en fait, en France, on a la mise en œuvre, ça c'est la mise en œuvre gouvernementale promue par le CCOMS, le centre collaborateur OMS de l'EPSM de Lille, hein, anciennement dirigé par Jean-Luc Roland, désinstitutionnalisé, fermer de plus en plus de services, se passer de plus en plus des lits, mais bon, ça se transfère ailleurs. Bon,
ça ne change pas grand-chose, en quelque sorte.
Alors, c'est une chance, mais c'est toujours la même chose, ça dépend des contre-pouvoirs.
Oui, d'accord. Oui.
Voilà. Alors, il est plus simple de s'organiser dehors que dedans. Hein. Bon. Donc, le rapport fournit d'ailleurs plusieurs annexes chiffrées, dont l'une détaille l'évolution de la part publique-privée sur 2014-2022. Elle indique que les établissements privés augmentent leur part d'activité, 21% des journées en 2014, 29% en 2022. Donc plus 8% sur l'ensemble des catégories de diagnostic, à l'exception de certains troubles, la démence, schizophrénie, le retard mental, où le recul est toutefois significativement moins marqué que celui du secteur public. La capacité de réponse de l'offre privée va se heurter au mécanisme d'enveloppe fermée de l'objectif de dépense qui lui est assigné, déplore le syndicat. C'est-à-dire que tous les ans, à l'automne, il est discuté, depuis les réformes Juppé 96, l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, l'ONDAM est fermé. L'objectif national est fermé. Mais, en fait, les groupes privés peuvent très bien investir de leur chef en dehors de l'ONDAM. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Encore que c'est assez compliqué, puisqu'en France, on ne fait rien en matière de santé sans l'agrément des agences régionales de santé. Mais bon. Bon, enfin, c'est cette discussion qu'il faudra voir. Donc la capacité, bon voilà, enveloppe fermée, la valeur d'une journée d'hospitalisation diminue lorsque l'activité augmente plus vite que l'objectif de dépense, explique la FHP Psy. C'est-à-dire que dans les cliniques conventionnées, on s'aperçoit que le prix de journée remboursé par la Sécu, hein, payé par la Sécu, est nettement moindre que le prix de journée dans un hôpital.
Oui.
nettement moindre, 3 à 4 fois moindre. Et pour cause, c'est qu'il n'y a pas toute une infrastructure qui suit. C'est-à-dire que dans l'hôpital, vous avez les programmes immobiliers, vous avez les ouvriers d'État, etc. etc.
Oui.
Donc, en fait, littéralement parlant, le prix de journée en clinique est économique par rapport au prix de journée à l'hôpital. Mmh. Bon. Donc l'évolution de l'enveloppe psychiatrie serait pour l'heure de plus 0,8% sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie débattu au Parlement tous les ans. L'évolution de chaque année depuis 2027 hors inflation, jusque 2027. Or l'étude projette une hausse annuelle de 4,7% de l'activité d'hospitalisation psy privée sur la même période en écho à la dynamique actuelle. Bon bref, ce que ça veut dire, c'est que l'AFHP demande... L'AFHP demande, la Fédération hospitalière privée demande que l'État prenne en charge, ou bien c'est le lucratif privé qui prendra en charge sur les deniers des intéressés. Denis. Bon, donc, j'ai clos la lecture de cette dépêche. Oui, la conclusion, c'est que c'est les groupes privés lucratifs qui se développe là-dedans,
oui.
Et que ce sera comme d'habitude, selon que vous serez puissant ou misérable, vous pourrez accéder à une prise en charge correcte ou pas.
Une prise en charge à deux vitesses.
Oui, un peu plus que ça. Hein.
Oui, enfin, c'est une expression. Voilà, et bien, pour finir une émission, merci André. Et ben, une annonce barge le son en tournée dans le Nord. Voilà, c'est... une tournée de Barge-le-Son avec donc le projet Une démarche ce qui est dans la continuité de l'édition du bouquin de Barge. Alors je lis le texte d'Héloïse K. Récit brut et poétique écrit entre 1999 et 2016 par Héloïse K. Barge est un journal de bord qui navigue dans les eaux du délire. D'une colocation de Berlin au contre-sommet du FMI à Prague, en passant par l'hôpital psychiatrique de Dijon, Héloïse nous donne à entendre toutes les voix qui, pendant sa vingtaine, l'ont accompagnée dans la prise en main de sa folie. À travers une histoire intime, Héloïse nous donne aussi à entendre un bout de l'histoire récente des luttes pour l'émancipation des messies et des folles. Avec sincérité, puissance et ironie, Barge parle à tous et toutes ceux et celles qui font des troubles psychiques à un sujet existentiel et politique. Alors que l'écoute radiophonique lors du podcast est habituellement un acte solitaire, nous voulons renouer avec l'expérience collective de l'époque du transistor communal. Nous proposons donc un dispositif d'écoute permettant au public d'être installé confortablement pour voyager dans le récit d'une vie ponctuée de bouffées délirantes. À l'issue de l'écoute, partielle ou intégrale, nous invitons les personnes qui le souhaitent à se rassembler afin de partager les sensations et pensées qui leur viennent en écho de Barge. Nous voulons que cette écoute collective, en présence des réalisateurs Tris, Sissi et Pull, soit l'occasion de mettre en commun nos expériences de troubles, de délire ou de folie. C'est ainsi une façon de prolonger le geste d'Héloïse K. qui cherche à mettre en lumière et à mettre en discussion des expériences couramment marginalisées. Alors, marge le son, donc c'est Médé Radio Canu, c'est le son qui est proposé à écouter. Et donc, le 29 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, à 17h30 à Calais, La Verte à Calais, le 30-11 à 17h30 à l'Anamorphose à Lille, le 1er décembre 2023 à 15h à l'autre lieu à Bruxelles, le 2 décembre à 18h le CC Cali à Liège et le 3 décembre à 13h le DK à Bruxelles. Donc voilà, c'est la tournée de Marge le son, et c'est ainsi que se termine l'entonnoir pour cette semaine, et nous allons vous laisser entre de bonnes mains puisqu'il s'agit de Radio Libertaire Méditerranée et de Fabrice pour un rayon de soleil. Eh bien, bonne semaine.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire. Et bien aujourd'hui c'est plutôt le Libertaire debout, le soleil à son zénith, l'émission d'investigation d'Un rayon de soleil que nous allons vous proposer, puisque nous allons consacrer l'émission à Bourdieu. Alors Bourdieu, c'est un sociologue qui a été très intéressant parce qu'il a étudié la manière dont les classes